C'est quoi ça, le mal-travail ?
Le mal-travail.
Maintenant, ils peuvent nous contrôler à distance. Je veux dire que si la machine est arrêtée, ils le voient en temps réel. Et ils essayent de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Mais avant, ça ne se calculait pas. Il y a une époque, la pression n'était pas la même.
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre à ce phénomène du mal-travail. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Enfin, presque. Bonjour Arnaud Mias.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Arnaud, vous êtes professeur des universités en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, et vous êtes un des co-auteurs du livre « Que sait-on du travail ? Un projet de médiation scientifique ». Votre chapitre s'intitule « L'horizon fuyant de la santé au travail ». Arnaud Mias, est-ce que vous diriez que le travail est plus difficile qu'il ne l'était il y a 20 ans, ou au contraire, les conditions de travail se sont globalement améliorées ? Déjà, de quel constat on part ?
Le constat, c'est une dégradation globale et relativement généralisée des
tout
conditions
secteur.
De travail, c'est-à-dire tout secteur, tout type de catégories socio-professionnelles, des cadres aux ouvriers en passant par les employés. C'est une dégradation globale qui ressort très nettement de toutes les enquêtes statistiques menées par le ministère du Travail. Hein. C'est ça quand même qui est...
Et c'est important de dire d'emblée, on y reviendra peut-être, mais c'est pas un ressenti. C'est pas qu'on accepte moins... des choses qu'on acceptait jadis, c'est concret.
Non, alors les enquêtes, effectivement, en général, on les critique de ce constat, vont insister sur le fait que c'est du déclaratif. Hein. Mm-hmm. On pose des questions sur les salariés qui disent les choses, mais enfin, ce sont les mêmes salariés qu'on interroge régulièrement, hein. Donc les mêmes. C'est-à-dire que voilà, donc
oui, ils font le même emploi.
Il y a 20 ans, ils déclaraient autre chose qu'aujourd'hui. Voilà.
Alors Cyril, vous n'êtes pas là, mais malgré tout, magie de la technique, je vous pose la question, d'où ça sort le mal-travail ?
Une fois n'est pas coutume, c'est un sujet éminemment politique auquel on s'attaque aujourd'hui. Avant qu'on parle du mal-travail, parlons de ce qui l'a précédé, le bien-être au travail. Un sujet relativement récent. En gros, il remonte à un siècle, c'est beaucoup à l'échelle de Quentin et Manon, mais très peu à l'échelle des humains qui bossent depuis la nuit des temps, et sans jamais qu'on se préoccupe de leurs conditions de travail. Ça a donc changé au début des années 1920, grâce au travail du sociologue australien Elton Mayo. C'est lui qui démontre l'importance de la motivation et de la satisfaction des employés sur leur productivité. Des facteurs qui pèsent aussi sur la perception des travailleurs sur leur emploi. Elton Mayo va se rendre célèbre grâce à une expérience dans l'usine de fabrication de matériel téléphonique Hawthorne, à Chicago. À l'époque, Elton Mayo est professeur à la Harvard Business School. Il enquête sur la productivité des employés de la Western Electric Company entre 1927 et 1932. De ce travail au long cours, Mayo découvre l'importance du climat psychologique et des modalités du commandement sur le comportement des salariés au travail. Dans les années 50, le chercheur anglais Eric Trist pousse encore plus loin les conclusions d'Elton Mayo. Selon lui, le bien-être au travail repose sur la capacité de l'entreprise à concilier les dimensions humaines, sociales et techniques du travail. Mayo et Trist ne vont être que les premiers d'une longue lignée de chercheurs à se pencher sur la question du bien-être au travail.
Mais Cyril, pourquoi vous parliez d'un sujet politique ?
Eh bien, c'est qu'on doit notre émission du jour à François Ruffin. C'est le député de la France Insoumise qui a mis le sujet du mal-travail dans le débat politique. D'abord en étant un acteur politique très au fait de tous les sujets liés aux conditions de travail, puis tout simplement en faisant un livre « Mal-travail, le choix des élites » paru en février dernier aux éditions Les Liens qui libèrent. Le travail va mal en France, il fait mal, mal au corps, mal aux esprits, écrit François Ruffin. Est-ce vraiment le cas ? Qui est concerné ? Qui se préoccupe du bien-être au travail ? Est-ce que le mal-travail ne risque pas de mener au non-travail ? Comment changer de paradigme au sein des entreprises ? Comment améliorer le quotidien des employés ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Et malgré son état de délabrement avancé, on peut le dire, Cyril est quand même allé au bout de ses questions.
Et de sa chronique.
Et ça, on peut saluer Cyril qui nous écoute certainement. C'est dommage, on aurait aimé débriefer avec lui des personnages évoqués dans cette chronique, notamment Eric Trist et Elton Mayo.
Trist et Mayo, c'est vraiment
des gens qu'on aurait voulu mieux connaître. Arnaud Mias, pourquoi est-ce que c'est seulement à partir de 1920 qu'on commence à s'intéresser au bien-être au travail ? C'est parce qu'on change d'air avec l'arrivée du Fordisme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En fait, cette découverte de... Elton Mayo,
le fameux,
c'est une découverte un peu par hasard en fait. C'est-à-dire qu'on est dans à un moment où c'est l'organisation scientifique du travail qui domine, c'est Taylor, et en fait on s'intéresse un peu comme des ingénieurs, on expérimente, on cherche à faire varier les conditions de travail pour voir qu'est-ce qui permettra d'être à l'ouvrier le plus performant possible.
Hein, l'objectif, c'est pas pour le bien-être de l'ouvrier du tout. Hein, c'est juste pour le bien-être.
Et à l'origine, Maillot n'a pas du tout cet intérêt-là. Hein.
Il fait des calculs.
Il fait monter le chauffage, il baisse, il fait varier l'intensité de l'éclairage, etc. Puis il voit ce que ça donne. Et puis globalement, et au bout d'un moment, quand même, ça les interroge un peu sur leurs hypothèses parce que ils se rendent compte que globalement, la productivité augmente. Et en même temps que les ouvrières qu'ils observent, ce sont des femmes ouvrières, disent qu'elles se sentent de mieux en mieux au travail. Alors même qu'on leur fait tout varier dans un sens ou dans l'autre, etc. Et en fait, ce qu'ils découvrent par hasard, c'est que ce sont les conditions mêmes de l'observation qui ont modifié la perception de leur travail, en fait. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, on leur demande qu'est-ce qu'elles pensent.
On s'intéresse à elles.
On leur demande leur avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et rien que ça, ça modifie complètement les choses et on découvre un continent de tout ce qui est les émotions dans le travail, les sentiments dans le travail, des choses qui étaient complètement ignorées jusque-là.
Sommes-nous en train de sombrer collectivement dans le mal-travail ? Alors que François Ruffin publie un livre sur le sujet, on essaye de comprendre ce que ce terme de mal-travail recouvre vraiment avec notre invité, le professeur en sociologie Arnaud Mias. Arnaud, divers sociologues, on l'a dit, estiment que depuis environ 20 ans, les conditions de travail se dégradent. Comment on peut expliquer que cette dégradation, alors même qu'on pourrait imaginer peut-être bêtement qu'avec les nouvelles technologies, ces conditions devraient plutôt s'améliorer.
Oui, c'est de toute façon un constat assez surprenant, y compris pour ce qu'on appelle les pénibilités physiques. C'est-à-dire qu'on pensait effectivement, avec la désindustrialisation, le développement des services, le développement des nouvelles technologies, effectivement, que les pénibilités physiques, le fait de... d'avoir des postures pénibles, de porter des charges lourdes, etc., aller décliner, s'effacer progressivement. En fait, c'est non seulement elles se maintiennent, et certaines progressent même au cours de ces dernières années. Donc, en fait, même les conditions les plus physiques de travail qui paraissent liées à un espace industriel, à l'ère industrielle, sont encore extrêmement présentes.
Mais comment ça peut être plus dur que les temps modernes, entre guillemets comment on peut imaginer quelque chose de plus dur que ça?
C'est compliqué de remonter au temps. C'est-à-dire que le recul que l'on a, c'est jusqu'à la fin des années 70, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est depuis la fin des années 70, à un moment aussi un peu particulier dans la prise en compte de ces conditions de travail, de ces questions de conditions de travail, c'est à partir de ce moment-là que le ministère du Travail a commencé à produire des enquêtes régulières posant les mêmes questions à intervalles réguliers pour mesurer justement des évolutions.
On avait reçu sur Inter, dans la matinale, François Ruffin, qui disait que les gens lui disaient, ce qui revenait toujours l'expression, c'était « on étouffe », on a la sensation d'étouffer dans notre travail. Vous parlez d'intensification aussi du travail, d'un modèle de la hâte, des cadences à tenir, des délais à respecter, des demandes à satisfaire immédiatement. Il y a vraiment, c'est pas de l'ordre du ressenti, il y a eu une accélération du rythme dans beaucoup de professions.
Oui, alors c'est pas... moi je fais que vulgariser sans doute des choses que d'autres collègues ont pu mettre en avant depuis une vingtaine d'années maintenant, mais effectivement ce qu'on a constaté, c'est que jusque-là, si vous voulez, il y avait deux formes d'organisation du travail. Il y avait d'un côté l'organisation industrielle du travail, dans laquelle effectivement le travail est intense, mais au fond la tâche elle est prévisible. C'est-à-dire qu'on sait, on sait qu'on va on va avoir la pause, on sait que le rythme est assez stable, le rythme de travail est assez stable, etc. Et puis de l'autre côté, dans l'univers des services, on a des temps de pause, mais plutôt imprévisibles. On a des clientèles, des demandes auxquelles il faut répondre rapidement, etc. Et l'invention, si on peut parler dans ces termes-là, l'invention managériale de ces dernières décennies, c'est d'avoir mixé les deux. Mais pour le pire,
on a l'incertitude.
C'est-à-dire de garder, d'introduire dans le monde industriel de type de l'urgence, l'immédiateté, l'interruption des tâches, et à l'inverse, d'intégrer dans le monde des services et jusque dans l'administration publique aussi tout un ensemble de contraintes, de rythmes de travail qui relèvent plutôt du monde industriel.
Donc pour vous, actuellement, on traverse une crise, on peut dire ça ? Peut-être qu'il est arrivé post-Covid aussi, je suppose ?
Oui, alors la question de la crise du travail est souvent remise à l'agenda. Effectivement, à l'issue de la crise sanitaire, on a pu mettre en avant un certain nombre de, de personnes qui pouvaient se détacher aussi du travail, de découvrir que effectivement il y avait un autre monde à côté du travail à temps plus que plein. Moi, j'insisterais plutôt sur l'idée d'une crise des organisations du travail. C'est aussi aujourd'hui, il faudrait tourner le regard plutôt vers non pas tellement peut-être ce que le ressentent les salariés, mais aussi la façon dont on organise leur travail. Et alors si je renvoie un peu au modèle de la hâte dont il était question tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ces organisations du travail ne sont pas discutées, on ne cherche pas à entendre la parole des travailleurs, des salariés, sur leur propre travail. Et eux-mêmes ont une connaissance fine de leur travail qui leur permettrait justement de dire comment être performant, plus efficace, tout en se ménageant des temps de respiration pour se sentir bien dans son travail.
Mais on a vu tout à l'heure avec le fameux Elton Mayo que c'était intéressant de poser la question aux salariés, que ça permet, on s'en est compte que plus le salarié se sentait bien, plus il était productif. Comment c'est possible qu'on ait oublié ça? Si on le savait, donc pourquoi
oui,
est-ce que...
c'est régulièrement, je dirais que c'est assez régulièrement mis à l'ordre du jour. Au début des années 80, enfin 68, hein, les années qui ont suivi 68, c'est aussi un moment de contestation forte des organisations du travail, des moments où aussi on mettait en avant des revendications d'expressivité sur son travail, d'enrichissement des tâches, de polyvalence, etc. À partir des lois Auroux, hein, en 1982, dans les années 80, on a essayé de mettre en place des espaces de parole sur le travail, qui ont périclité assez rapidement, qui n'ont pas eu un destin durable, hein, disons. Quand on a parlé il y a 10 ans de qualité de vie au travail, on disait il faut mettre en place des espaces de discussion sur le travail. Ouais, il y a 10 ans, on disait ça. Enfin, on disait, hein, c'est les organisations syndicales et patronales promouvaient cet espace de discussion sur le travail. C'est toujours à l'agenda.
Et pour parler du mal-travail, Quentin, vous êtes allé interroger les gens dans la rue.
J'ai profité du retour des vacances pour passer dans la capitale de la Sarthe. C'est pas vraiment le chemin, mais bon, une des terres industrielles françaises. Tiens, au passage, et à ce sujet, je vous recommande la très belle expo au Carré Plantagenêt, mécanique de la ville. C'est justement en ressortant de l'expo que je discute avec ces trois copains qui viennent de finir leur café. Bonjour.
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 C'est quoi vos prénoms ?
Slimane.
Rachid.
Jamal.
Et vous avez quel âge ?
48.
54.
42.
Est-ce que vous pouvez me donner vos métiers ?
Dans la production d'automobiles.
Chauffeur-livreur.
Je leur fais lire la notion qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Rachid qui travaille dans une grande usine automobile de la région qui se lance.
Le mal de travail.
Le mal de travail.
Le mal travail même.
Ouais. Il n'y a pas de deux.
On commence à ressentir un peu le rythme et tout ça. Il est un peu soutenu. Je pense que c'est moins qu'à une époque. Une époque, il y avait une ambiance. Au travail, on y allait avec, on va dire pas la joie, mais c'était plus sympa. Et maintenant, c'est un peu plus dur, les productions. Même aujourd'hui, quelqu'un qui part en retraite, les gens, ils faisaient une cagnotte, etc. Ils sont pressés de partir. Des fois, on dit, je ne vois plus. Il est parti en retraite. Alors qu'au début, quand j'ai commencé dans l'entreprise, les gens, ils aimaient leur boulot ou peut-être l'ambiance avec les potes, etc. Et ça s'est perdu.
L'ambiance a changé, on veut partir du travail aujourd'hui, mais alors qu'est-ce qui a changé ?
Je sais pas, peut-être l'informatique, on est peut-être plus regardé, les productions elles sont calculées, etc. Mais avant, ça se calculait pas, il y a une époque... La pression n'était pas la même. Je veux dire, un chef chez lui, il peut regarder son PC et savoir comment allait la production à l'instant T. Et je pense que ça c'est différent par rapport à une époque où on avait une production à faire et on s'en tenait à ça, et etc.
Alors le numérique a-t-il amené avec lui plus de pression, toujours plus de rentabilité pour les équipes ? C'est en tout cas ce que Rachid observe sur sa ligne de production. Luc me voit arrêter les gens, il a 67 ans mais enseigne toujours. Je lui demande ce que lui inspire la notion qu'on décortique aujourd'hui.
Le mal-travail. Je pense que c'est une des conséquences de la dérégulation européenne. On a mis en concurrence les salariés, les délocalisations. Ça fait au moins 30 ans que ça existe. Ce sont les salariés qui en subissent les conséquences.
Il me parle des usines, mais aussi des agriculteurs isolés face à de la concurrence mondiale, parfois déloyale. Alors je lui demande s'il fallait dire non au marché européen et peut-être même à l'Europe.
On aurait dû, et c'est Jean Monnet qui le disait d'ailleurs, il regrettait de ne pas avoir commencé par l'Europe sociale et culturelle. Au lieu de faire, comme certains pays l'ont fait, du dumping social, Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que j'avais lu de Jean Monnet. Après, voilà, c'est une interprétation.
C'est bien, François Ruffin, Jean Monnet, on cite des auteurs. Merci, monsieur.
Je vous en prie.
À bientôt.
L'Europe, les marchés, la mondialisation et la concurrence avant l'utopie sociale de Jean Monnet. Ma dernière rencontre, c'est lui. Il sort de la maison de la presse du Mans avec quelques paquets de cigarettes dans les mains. Gilles, la quarantaine, découvre...
Le mal travail.
Ouais. On parle du mal-être au travail.
Ouais, oh, bah, c'est pas pour moi, ça.
Vous êtes heureux de travailler?
Ah, je suis heureux de travailler, j'adore travailler, moi.
Alors, c'est pas le seul qui m'a dit ça, et je pense que c'est bien aussi qu'on l'entende, mais en creusant un peu, je me rends compte que pour Gilles, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'il a connu le mal-travail?
Ça m'est déjà arrivé. J'étais hôtelier avant, donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, en fait, au niveau de l'hôtellerie, parce que c'est des horaires assez spéciaux, ouais. Et donc j'ai eu un petit burn-out, et donc finalement, j'ai changé de taf. Simplement.
Comment ça s'est traduit?
C'est la boule au ventre. Quand on va taffer, on a la boule au ventre. Voilà.
Et un jour, vous avez dit c'est...
Stop. Donc j'ai pris une petite année pour moi, pour voyager. Puis finalement, j'ai trouvé ma voie en voyageant.
Incroyable.
Mais incroyable.
Aujourd'hui, vous bossez en agence de voyage.
Exactement.
Ok, vous proposez quoi comme voyage sympa, là?
Tu veux quoi comme voyage?
J'ai tout. Le soleil.
Ah bah écoute, allez go. Viens, on va en Martinique.
Ah, nous, on est plutôt team Maldives. Mais bon, c'est pas grave.
Une ambiance, d'Arcachon.
Une ambiance et une saveur à se rendre au travail qui s'est perdu sur les sites de production industrielle, chez les intermittents, parmi les agriculteurs, dans l'hôtellerie. Dans ces domaines qui reflètent que le mal-travail n'est pas un vain mot, mais un des mots MAUX d'une partie de la vie à laquelle nous donnons le plus de notre temps, le travail.
Sommes-nous vraiment confrontés à une épidémie de mal-travail? Pourquoi tant de Français ont-ils mal à leur métier? On en parle cet après-midi avec vous, Arnaud Mias. Qu'est-ce que vous pensez des réactions de ces manceaux? Rachid, qui travaille dans l'industrie automobile, qui parlait de la numérisation qui oblige à tout rentabiliser. L'informatique nous flique aussi, flique les salariés. C'est vrai qu'un patron peut en temps réel, à tout moment, savoir où en est la productivité des uns et des autres.
Oui, ben leur discours renvoie aussi à ce qu'on a pu décrire tout à l'heure en termes d'intensification du travail. Moi, ce que j'aime bien dans cette expression « mal travail », c'est que ça pointe la qualité du travail. L'enjeu, c'est maintenant aussi la qualité du travail. C'est-à-dire, on peut penser le mal-être au travail, l'ambiance au travail, c'est plus la même ambiance, etc. Comme si c'était quelque chose d'assez parasite, enfin, si c'était dans l'environnement de sa propre activité professionnelle. En fait, ce que pointe Ruffin et avec lui aussi d'autres chercheurs, enfin des chercheurs, c'est que ce qui s'est dégradé, c'est la qualité même du travail, c'est-à-dire le fait que on puisse se reconnaître dans ce que l'on fait, que l'on puisse être fier de ce que l'on fait, que l'on ait le sentiment d'être utile. Et voilà, il y a une dégradation qui est liée à cette dégradation de la qualité du travail, par-delà les conditions de travail, le bien-être l'ambiance au travail ou la qualité de vie au travail.
Mais quand même, parce que Rachid nomme aussi une chose, moi, qui a retenu mon attention, c'est le départ en retraite. On célèbre moins le fait de partir, on n'organise plus les cagnottes, on part, c'est tout. Qu'est-ce que ça raconte, ça? On peut pas le minimiser non plus. On passe 8 heures de notre journée avec les collègues et il y a un jour, on arrive un lundi, le collègue est parti à la retraite.
En catimini.
Oui, il y a des mouvements, des mouvements de départ, ça exprime sans doute aussi des postures de retrait. C'est-à-dire, on a beau être présent au travail, on s'y investit moins. On donne moins de sens aussi, pour certains, à la participation à ce travail-là. Et donc, le jour où on s'en va, c'est pas forcément... c'est un petit bout de notre vie qui s'en va.
Mais c'est pas toute notre vie.
C'est pas toute notre vie.
Et de l'autre côté, la Gen Z aussi a un rapport très différent au travail. On le voit sur les réseaux sociaux. Elle en parle beaucoup. Elle dit notamment ne plus vouloir tout accepter pour des sommes dérisoires, qu'il faut connaître sa valeur. C'est quelque chose qui revient souvent. Du coup, c'est l'avenir, cette Gen Z, ça va être encore pire, du coup, après.
Je sais pas. On dit des choses sur les nouvelles générations. En tant que sociologue, j'ai toujours tendance à vouloir prendre avec beaucoup de précautions, beaucoup de pincettes, ce type de discours sur des changements. Je pense que on reste quand même dans une société qui valorise énormément le travail. Et d'ailleurs, la société française, plus que ses voisins encore... Le travail occupe encore une place extrêmement importante dans la vie, l'esprit des Français. Et le travail reste un moteur extrêmement important de construction de soi, de sa propre identité sociale, de la place que l'on occupe dans la société. Et ça, c'est pas prêt d'évoluer, à mon avis.
On est comment par rapport aux autres pays européens, par exemple, cette notion du mal-travail, déjà, est-ce que le concept même du mal-travail qu'on a étayé tout à l'heure, il est présent dans les autres pays ou ils en sont toujours au mal-être au travail, comme on en parlait tout à l'heure?
Disons que dans les comparaisons, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une institution européenne qui s'appelle la Fondation de Dublin, la Fondation pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs, qui fait des enquêtes statistiques un peu à l'image de ce que fait le ministère du Travail, de façon comparée. Ce qui ressort, c'est qu'on est quand même plutôt les derniers de la classe. Du côté des pénibilités physiques, on est très très loin derrière des pays comparables, en termes de structure, de développement économique, etc., de structure industrielle. Et en termes d'anxiété, de troubles psychiques dans le travail, on est aussi très mauvais.
On est bon nulle part, quoi.
Sur ce plan-là, c'est assez catastrophique.
Est-ce que vous diriez que ces dernières années, les politiques ont un peu trop délaissé la question des conditions au travail en France ?
Oui, je pense qu'on redécouvre aujourd'hui une question, je l'ai dit, qui est apparue à différents moments du XXe siècle. On redécouvre cette question du travail à un moment aussi, sans doute, de basculement du côté des politiques de l'emploi. C'est-à-dire, pendant plusieurs décennies, l'emploi a été à l'agenda politique, c'était la préoccupation, y compris quand on parlait de valeur travail. Au fond, on ne parlait pas du travail, on parlait de l'emploi. Et on est sans doute dans un contexte qui est favorable à mieux discuter, mieux aborder ces questions de travail que par le passé.
On a entendu un écho de ça dans le micro-trottoir de Quentin tout à l'heure. François Ruffin dit « Je rencontre des Français qui, en gros, aiment leur travail, mais n'aiment pas comment on leur fait faire leur travail. Mmh. » C'est le cœur du problème du mal-travail. Les Français aiment leur métier, la plupart du temps. C'est les conditions d'organisation de ce métier qui pêchent.
Oui. Et c'est ça qui fait souffrir le plus. C'est-à-dire, c'est d'avoir d'avoir des attentes vis-à-vis de son travail et sentir que on nous empêche de faire un travail de qualité. Je reprends aussi une expression qu'apprécie beaucoup, qu'utilise beaucoup un psychologue du travail qui s'appelle Yves Clos et qui montre que ce qui nuit à la santé au travail, c'est l'empêchement de bien faire son travail. De pouvoir faire un travail de qualité, utile, dans lequel on se reconnaisse, etc. C'est ça qui est au cœur des enjeux et qui au cœur d'enjeux qui sont en même temps complexes à traiter.
Mais même en étant parfaitement cynique, il y a une autre raison purement économique qui devrait pousser les politiques à se pencher sur cette question du mal-travail, c'est que ça coûte cher, finalement. J'avais les chiffres tout à l'heure. Le coût du mal-travail avait été estimé à l'époque de Xavier Bertrand, qui n'était pourtant pas d'extrême-gauche, avait évalué à au moins 3-4% du PIB.
Oui.
Donc on aurait intérêt à faire quelque chose.
Oui. Alors, c'est des estimations un peu compliquées à faire, parce qu'on mesure par exemple le coût de l'absentéisme. C'est-à-dire quand on n'est pas bien...
On ne vient pas.
Voilà, on ne vient pas, on peut être malade, etc., plus fréquemment que d'habitude. Et donc ça, voilà, rien que les absences au travail ont un coût. On pourrait calculer le coût des antidépresseurs liés à des dépressions liées au travail, etc. Bon, donc c'est quand même pas facile à estimer. Mais alors ma référence sera pas Xavier Bertrand, mais une agence européenne qui est basée à Bilbao, l'agence sur les questions de santé sécurité au travail, qui avait fait une estimation de à peu près du même ordre au milieu des années 2010 en Europe. Le coût de la santé, sécurité au travail, enfin des problématiques de conditions de travail, c'est entre 3 et 4%. Avec certains pays qui vont être plutôt proches du 3 et d'autres pays qui ne sont pas loin du 5%. Alors, à l'époque, c'était l'Italie et la Pologne qui étaient pointés comme des pays dans lesquels le coût de cette souffrance au travail pèse particulièrement lourd dans le PIB.
Et pour terminer, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ça, parce que ça, c'est un point intéressant, un peu flippant aussi, pour François Ruffin. Le mal-travail est un fléau choisi parce qu'il rapporte gros. C'est-à-dire, pour lui, le mal-travail, c'est pas un fléau malheureux, un dommage collatéral fortuit sur lequel on n'a pas de prise. Pour lui, c'est un choix des élites au détriment du salarié. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, comment on l'explique?
Bon, c'est compliqué de valider une telle thèse. En tant que sociologue, on a tendance à dire c'est plus compliqué que ça. Donc, ça sera sans doute à peu près le tour de ma réponse. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même des choix organisationnels, des choix managériaux qui sont faits. Là où sans doute il a partiellement raison, c'est aussi le fait que cette focalisation sur le coût du travail, sur le fait que en France le travail coûterait plus cher qu'ailleurs, a fait qu'on a choisi un modèle que certains de mes collègues appellent un modèle low cost. D'organisation du travail, dans lequel, en fait, on pressurise, on a pour seule lubie que de pressuriser le travail en partant du principe, en partant de l'idée reçue que les salariés français ne travailleraient pas assez.
Est-ce que vous pensez que les Français puissent à nouveau reprendre collectivement du plaisir à aller travailler, ou est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère ?
Je reste optimiste dans la capacité à transformer nos sociétés. Il y a des cas, hein. C'est vrai que j'ai tendance à noircir, hein, en voulant résumer brosser un grand trait le tableau. Vous avez cité aussi tout à l'heure le cas de quelqu'un qui s'épanouit dans son travail. Il y a bien sûr des possibilités encore d'épanouissement dans son travail. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse aussi se poser collectivement la question des conditions dans lesquelles on peut, pour tous, et en étant attentif aux inégalités aussi, face aux inégalités sociales, face à ces problématiques de santé et sécurité au travail, se donner les conditions pour que tous et toutes, nous puissions nous réaliser dans notre travail.
Et ça passe par plus de dialogue, j'imagine, au sein de l'entreprise.
Ça passe par plus de dialogue, effectivement, en libérant la parole, et surtout une parole qui doit être transformatrice. Et il ne suffit pas juste de donner la parole et de faire une réunion dans laquelle on va se plaindre les uns les autres, mais on cherche vraiment à transformer le travail et l'organisation du travail.